Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Le documentaire Road Movie en quête de sens est projeté au cinéma Ilé mardi 15 septembre. Bonjour Nathaël Coste, vous êtes le réalisateur, c'est bien ça?
Oui, bonjour. Alors les deux réalisateurs, en fait, c'est une aventure qu'on a fait à deux avec Marc de la Ménardière, donc un ami d'enfance. Et donc voilà, c'est vraiment une aventure entre amis.
Et de quel constat êtes-vous parti pour monter et créer ce film?
Alors le constat, c'est celui d'une société qui va dans le mur, tout simplement. Donc on peut ne pas s'en rendre compte, mais c'est vrai que dès qu'on lève un peu le nez du guidon, qu'on regarde les quelques indicateurs qui sont à notre disposition, même ceux fournis en fait par les grandes instances internationales, on voit que les ressources peuvent être amenées à manquer très vite, que en fait les inégalités n'ont jamais été aussi fortes sur la planète. Voilà, la récente crise des migrants, par exemple, nous montre bien que dresser des murs, ça va pas nous protéger très très longtemps, et qu'il y a peut-être d'autres solutions à trouver en termes de répartition des richesses, plutôt que d'essayer de se protéger, de protéger en fait les quelques richesses qu'on a par ailleurs parfois pillées dans ces pays-là, et où l'exploitation du travail dans les pays émergents, donc tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui ça tourne plus bien rond, et qu'en fait toute notre génération qui finissons nos études et cherchons du travail à l'heure actuelle, on est à la fois tiraillé entre cette envie de participer au monde, de faire des choses, d'avancer, et puis en même temps on n'a pas envie forcément de reproduire les erreurs qui, si aujourd'hui le constat est patent pour tout le monde, suite à la crise financière, on a bien vu que de toute façon on était dans un système qui de toute façon ne pouvait plus être réparé, et que même de toute façon les quelques rustines qu'on avait proposé d'apposer, il n'y a eu que des discours, il n'y a pas eu grand chose de fait derrière. Donc on sait très bien que tôt ou tard le système arrivera finalement dans cette forme-là à une sorte de déliquescence généralisée. Et donc le constat, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet d'espérer et nous permet de nous raccrocher à quelque chose de positif pour notre génération, pour se dire un autre monde est possible, mais par où on commence? Et voilà. Et donc là, la conclusion qui est arrivée assez vite, c'est de dire il faut commencer par repenser un petit peu la vision globale, c'est-à-dire repenser un peu qu'est-ce qui fonde un petit peu les croyances et donc les mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans l'économie, dans la façon de se relier au monde, à l'environnement et aux autres êtres humains.
Vous dites qu'on va droit dans le mur, ça fait tout de même un petit peu peur.
On peut décider de le nier et faire comme si de rien n'était. C'est ce que font la plupart de nos politiques, d'ailleurs aussi, qui continuent à penser qu'on peut continuer à faire un petit peu comme avant et se cacher derrière leurs petits doigts. Mais objectivement, si vous lisez quelques bouquins un petit peu renseignés sur la question, par exemple, on a rencontré M. Tim Jackson, qui a écrit un bouquin justement qui cherche une voie entre la croissance et la décroissance. Mm-hmm. Il s'appelle Prosperity Without Growth. Donc c'est un débat intéressant. Nous, on n'a pas voulu rentrer de plein pied dans le débat vraiment de la décroissance, parce que c'est un débat qui est assez miné en France, puisque le vocable en lui-même fait peur. Mais finalement, aujourd'hui, la question de la sobriété est quand même assez centrale. C'est-à-dire qu'on va dans le mur, mais c'est pas inexorable. C'est-à-dire que si à un moment donné, chacun, et là je parle pas forcément d'environnement, je parle d'une prise de conscience globale que de toute façon, nos modes de vie à l'heure actuelle ne sont pas soutenables. C'est pas de l'idéologie, c'est factuel en fait. Et à un moment donné, si on se dit, parce qu'aujourd'hui, finalement, on continue cette fuite en avant en se disant c'est la technologie qui va arriver à résoudre tous nos problèmes. On peut continuer à maintenir ce mode de vie-là parce que la technologie finalement va arriver, on va arriver à modérer le climat en inséminant les océans ou en jetant des ions d'argent sur les nuages pour qu'ils pleuvent, etc. Ou tout un tas de technologies qui seraient censées nous éviter en fait le gouffre béant qui est devant nous. Mais c'est quelque part aussi un peu naïf, et Tim Jackson était le premier à préciser que si les gens qui vous disent aujourd'hui qu'on va réussir à nourrir 9 milliards de personnes avec les techniques actuelles, basées en fait sur les intrants au pétrole et basées sur une croissance économique qui pour l'instant est galopante, et qu'en fait tout le monde pourrait accéder au mode de vie d'un Américain ou d'un Européen, en fait ces gens-là sont des menteurs. Et donc il faut sortir un petit peu de cette idéologie naïve de faire comme si de rien n'était, de penser que la technologie va résoudre tous nos problèmes. Aujourd'hui, il y a une vraie remise en question à faire. C'est une remise en question qui peut être individuelle ou qui peut être aussi ensuite collective, et de se dire tous ensemble, comment on va faire et qu'est-ce qu'il faut remettre en question dans notre rapport au monde et dans notre façon de consommer. Mais finalement, c'est qu'une des parties de ce qu'aujourd'hui il faut qu'on regarde un peu en face avec un vrai examen approfondi, et qu'on se dise c'est encore possible, mais il reste pas longtemps. Hein. Les spécialistes qui travaillent là-dessus, donc notamment Vandana Shiva qu'on a rencontré, ces gens qui vous disent aujourd'hui on a dépassé les capacités de la planète à se régénérer en termes d'écosystème, donc il nous reste que quelques années finalement pour infléchir une tendance majeure, et aujourd'hui les opinions mondiales sont en train de se saisir de ces débats-là. On va voir la COP21, donc la conférence pour le climat qui aura lieu à Paris cet automne.
Cette COP21, ça vous fait doucement sourire, non?
ça fait sourire. Mais ce qui ne fait pas sourire, c'est de voir justement à quel niveau les citoyens vont pouvoir s'emparer de cet événement pour faire pression. C'est-à-dire, personnellement, je ne pense pas que les gouvernements vont prendre des décisions qui vont infléchir le cours de l'histoire.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Ce qui peut infléchir le cours de l'histoire, c'est la mobilisation des citoyens autour d'un événement comme celui-là et tout ce qui peut se passer à côté. Et de voir aussi quel positionnement vont prendre les médias par rapport à ça. Voilà. Donc par exemple, la cancante des sens, on se dit, ben voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir relayer et alimenter, par exemple, avec des vidéos virales, par exemple, en tentant d'être présent sur certaines des manifestations. Il y a tout un tas de blogueurs du monde entier qui vont être là à un moment donné. Donc à un moment donné, les yeux, avec l'Internet, ça va très très vite. Si vous voulez, cette espèce de conscience mondiale, de société mondiale, bon, qui est connectée, on parle pas de 100% des gens de la planète, mais on parle aussi de gens qui ont fait des études éventuellement, qui ont un intérêt pour les choses qui se passent, et qui peuvent être aussi les décideurs de demain, ou en tout cas la jeunesse qui a une conscience beaucoup plus aiguë de ces phénomènes-là et qui n'a pas envie tout simplement de vivre dans une poubelle ou dans un monde invivable d'ici une dizaine d'années. Et alors du coup, voilà, là il y a quelque chose qui se passe au niveau de la conscience, au niveau de l'investissement citoyen autour de ces sujets-là. Voilà. Donc c'est des petits temps forts, on va dire. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais en tout cas, c'est des temps forts qu'il ne faut pas rater, parce qu'effectivement, c'est une pression. On peut aussi faire pression à la fois sur les gouvernements, mais aussi sur les entreprises, qui sont le principal aujourd'hui facteur de pollution. Regardez un film qui s'appelle par exemple The Corporation, qui n'a malheureusement pas été très bien traduit en anglais, mais on trouve des versions sur Internet. The Corporation, en 2 heures, on vous explique qu'est-ce que c'est que le fonctionnement du multinationales, pourquoi aujourd'hui les multinationales peuvent être qualifiées de psychopathes, c'est-à-dire d'individus, puisqu'en fait elles ont les mêmes droits qu'un individu, mais sans en avoir aucun des devoirs. Et donc à un moment donné, le problème global qu'on rencontre sur la planète, c'est aussi cette non-régulation de toutes ces entités qui certes créent de l'emploi et peut-être quelque part aussi créent de la richesse, mais sont facteurs d'une destruction à vitesse grand V de l'humain et des écosystèmes. Et c'est vraiment à ça aujourd'hui sur lequel il faut dire, ben, on a le droit de faire des entreprises, mais peut-être qu'il faut un petit peu réformer le logiciel de pilotage de ces entreprises et faire en sorte qu'elles ne fonctionnent pas comme des espèces de psychopathes qui détruisent tout sur leur passage, sans aucun contrôle.
En disant ça, vous pensez notamment à Apple ou Samsung, par exemple, non ?
Bah, j'ai pas envie de citer de nom en particulier, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient se sentir concernées par ce constat. Je pense que voilà, je pense qu'il y a quand même très peu d'entreprises qui, de grandes entreprises, hein, je ne parle pas des PME, des PMI, je ne parle même pas des entreprises entre 100 et 1000 salariés qui globalement n'ont pas du tout de cette faculté de nuisance. Mais dès qu'on rentre dans des logiques vraiment mondialisées, sans compter que souvent ce sont des entreprises qui ne payent pas d'impôts, donc on est vraiment sur des modèles complètement asociaux et complètement au détriment de toute conscience écologique et de conscience globale. C'est-à-dire, c'est vraiment des calculs à court terme pour faire de la croissance à 2 chiffres, mais il n'y a aucune réflexion, même sur le long terme de 10 ans. Donc c'est absolument désastreux. Aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin de ce modèle-là. Et il faut vraiment arriver à le réformer, sans quoi, ben voilà, arrivera ce qu'il arrivera. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de raisons d'être pessimiste. Donc nous, on n'a pas voulu sombrer dans ce pessimisme ambiant. On a voulu dire, il y a encore, il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est tous ces gens qui se lèvent sur la planète pour dire, ben justement, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'a pas forcément le pouvoir de faire plier telle entreprise ou telle autre ou tel gouvernement. Par contre, nous, localement, à notre échelle, on va mettre en œuvre, en fait, des logiques qui nous semblent saines, qui nous semblent justes, qui remettent l'humain et la nature au centre. Et par effet de contagion, en fait, ces petites expérimentations, aujourd'hui, qui commencent à être de plus en plus visibles, commencent un petit peu à peser. Voilà. Après, comment est-ce qu'on passe à une échelle supérieure? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre, à faire pression sur les gouvernements et les entreprises? Là, j'ai pas la réponse. Et c'est pour ça que des temps forts comme celui de la COP21 sont importants.
Il y a une prise de conscience tout de même des citoyens par exemple, les circuits courts. C'est une bonne idée, ça, les circuits courts?
Ça fait effectivement plusieurs années qu'on voit des choses se développer en local, éventuellement aussi en national. Le problème, c'est qu'on en parle très très peu dans les médias. Donc en fait, les gens qui participent à ça, eux-mêmes sont convaincus d'être dans le juste, mais il n'y a pas un effet d'entraînement suffisant par rapport aux urgences qui sont devant nous. Et maintenant, c'est vrai que si on commence à regarder, comme beaucoup maintenant de documentaristes le font, toutes les choses saines qui ont lieu et toutes les choses positives qui vont dans ce sens d'une autre compréhension du monde, de quelque chose de plus collaboratif, de moins horizontal dans les prises de décision, etc., c'est une fourmilière, il y a énormément de choses qui se passent. Et dans l'ombre, il y a Gandhi qui disait « l'arbre qui pousse fait moins de bruit qu'une forêt qui tombe ». C'est-à-dire la forêt qui pousse fait beaucoup moins de bruit que l'arbre qui tombe. Et là, on est exactement à ce stade-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'initiatives en fait qui sont en train de naître, de façon très silencieuse et très discrète. Mais si on s'y intéresse, on se rend compte effectivement qu'il y a tout un pan de la population, qu'on aurait bien de mal à dénombrer aujourd'hui, qui est en train de prendre conscience et qui est en train, d'une façon ou d'une autre et à son échelle, de mettre en œuvre des logiques qui sont des logiques de vie et non plus des logiques de destruction.
Mais nous, en tant que citoyens, on peut dire qu'on ne peut pas faire grand-chose à part quelques brides ?
Alors c'est justement cette idée-là qu'on a voulu combattre dans le film. Et pourquoi exactement ? Parce que justement, tout le pouvoir qu'on a aujourd'hui en tant que citoyen, en tant que consommateur, même si nous on réfute l'idée qu'il faut s'identifier à une identité de consommateur, bon, il se trouve qu'en étant intégré dans cette société-là, on consomme, et en fait, notre entre guillemets, notre pouvoir d'achat est notre premier droit de vote. C'est-à-dire si demain on arrête d'acheter dans telle ou telle enseigne, ou qu'on boycotte tel ou tel produit, c'est quelque chose qui n'est pas très, très très sexy, entre guillemets, mais en fait on a un pouvoir qui est quand même assez considérable à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que les grandes entreprises militent pour qu'on n'étiquette pas les produits OGM, etc. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'on aura étiqueté les produits OGM, les gens vont arrêter de les acheter. Voilà. Donc, il y a vraiment là, on est dans le champ de la démocratie, malgré tout. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on achète, c'est aussi, fait partie de notre responsabilité, parce qu'on encourage, en fait, certaines logiques. Au-delà de ça, on est puissant parce qu'on a cette capacité à se relier et à créer des groupes de pression. Et il suffit pas d'être forcément très très nombreux, parce qu'en fait, même une action qui est coordonnée au niveau national avec 2, 3, 4 000 personnes peut peser à l'échelle d'un gouvernement ou à l'échelle d'un député, d'un ministère, etc. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est l'isolement des gens, le fait qu'on soit tous repliés derrière des écrans plats avec un verrou sur notre porte, qui nous isole et qui nous affaiblit en tout cas. Et que toutes les démarches associatives, même locales, à un moment donné, vous êtes une association, vous avez quelque distance, vous organisez une manifestation, vous parlez aux médias, vous représentez en fait un pouvoir, une influence, vous avez une aura, etc. Donc c'est aussi ce que les gens sont en train de réaliser. Aujourd'hui, l'Internet aussi nous donne des pouvoirs supplémentaires qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc c'est pour ça aujourd'hui on parle aussi de censure de l'Internet, etc. C'est des sujets qui sont sensibles, parce qu'on voit bien en fait que bon, il y a le meilleur et il y a le pire sur Internet, effectivement.
On est bien d'accord, oui.
On est bien d'accord, mais il y a aussi toute une capacité pour les gens à créer des initiatives. Vous voyez, un film qui est en quête de sens, il y a 5 ans ou 10 ans, il n'aurait pas pu voir le jour. Tout simplement parce qu'on n'aurait jamais eu l'argent de le faire. Aujourd'hui, à un moment donné, on avait un début de film, on avait tout tourné, etc. On s'est tourné vers les gens, on leur a dit, bah voilà, on a envie de finir ce film, voilà une bande-annonce. Seulement, voilà, il nous manque de l'argent, on peut pas aller au bout, faut payer les techniciens, des droits, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et là, il y a eu un gigantesque élan citoyen, j'ai envie de dire, tant et si bien qu'on demandait une dizaine de milliers d'euros et on a récolté en fait 4 fois plus. Il y a eu 1000 personnes qui se sont mobilisées, qui ont fait passer le mot et qui nous ont soutenus. Et après, il y a eu une histoire merveilleuse de plein de gens qui sont venus nous aider sur des traductions, sur tout un tas de services techniques, etc., des musiques. C'est ça qui a permis d'aller au bout et qui nous a donné aussi l'énergie d'arriver à lancer ce film au cinéma, ce qui n'était pas du tout prévu au départ.
C'est voilà. Ce qu'on appelle du crowdfunding.
Ce qu'on appelle du crowdfunding, qui prend aujourd'hui beaucoup de place aujourd'hui, et ce qui donne finalement le pouvoir à n'importe qui a un bon projet, de plus être dépendant des logiques financières et des logiques bancaires pour arriver à le produire, mais avec ses petits bras et avec sa tête, de pouvoir aller au bout de son projet et de lui donner naissance. Et donc ça redonne le pouvoir aux gens de rêver, de dire « moi j'ai envie de faire ça, c'était impossible il y a 5 ans, mais aujourd'hui avec tous les gens que je vais arriver à toucher avec mon projet, bon c'est du travail, hein.
Mais on est bien d'accord, oui.
C'est aussi le travail et la persévérance, maintenant rendre possible de faire voir le jour, de donner naissance à un rêve, ce qui était un peu plus compliqué il y a quelques années. Donc il faut voir tout ça, et il faut voir qu'on n'est pas impuissant, au contraire, même si les médias aimeraient nous convaincre qu'on n'a qu'à regarder avec un certain fatalisme, voire un peu de cynisme, le monde en train de se désagréger sous nos yeux. Nous, on a voulu dire aux gens, non seulement vous avez votre part de responsabilité, et éventuellement votre non-action peut être aussi en jeu, mais finalement, c'est pas là le principal, parce que l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens et leur dire c'est de votre faute. Non, mais c'est de donner confiance aux gens, de dire vous êtes puissant, vous avez la capacité à changer les choses, à votre échelle personnelle, c'est-à-dire vous pouvez vous devenir quelqu'un de meilleur, et autour de vous montrer aux autres gens qu'on peut devenir meilleur et qu'on peut rentrer dans une logique de partage, une logique de vie, et aussi mettre en place des projets à toutes les échelles qui sont des projets en fait tournés vers l'humain, tournés vers la protection de la nature et autour d'une autre compréhension de tous ces phénomènes-là. Donc voilà, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le film, mais toutes ces idées d'interdépendance en fait, qu'aujourd'hui on est en train de reprendre conscience, y compris à un niveau scientifique, que ça marche un petit peu aussi comme ça, toute la symbiose qu'il y a entre les plantes, on se rend compte que la compétition, c'est pas ça qui dirige le monde, finalement, comme a voulu nous faire croire Darwin. Il y a un équilibre, il y a un effet de la compétition qui est là, mais il y a aussi toute la coopération entre espèces qui est à l'intérieur des espèces, qui permet en fait aux espèces de survivre. Donc aujourd'hui, si on prend un petit peu ça à un niveau philosophique, on voit qu'on est sur une voie, celle de la compétition exacerbée, qui est un cul-de-sac, et que même la nature elle-même ne fonctionne pas comme ça. Et que donc finalement, on peut rétablir un peu un logiciel beaucoup plus sain au sein de l'humanité et à toutes les échelles. Et en fait, c'est à chacun finalement de s'emparer de cette vision-là et de la faire sienne. Et en ça, on devient puissant parce qu'on devient en fait des acteurs de ce changement qui est en marche et qui demande qu'on se rallie en fait à ce mouvement qui est là, qui est un petit peu souterrain, un peu invisible, mais qui fait son chemin dans les consciences. Nous, on l'a vu un peu dans le monde entier. Il y a des tas de gens qui sont très conscients aujourd'hui que finalement la soupe qu'on leur vend, c'est pas forcément ça qui va sauver l'humanité demain. Et que du coup, on peut très simplement faire des choses dans son quotidien ou des choses à côté de son travail. Il ne s'agit pas de démissionner, de changer de vie radicalement, même si dans certains cas, certains choisissent de le faire. Mais en tout cas, se rallier à des dynamiques positives qui vont petit à petit nous sortir de l'ornière.
Il faut passer du consommateur au conso-acteur.
Du consommateur au producteur, c'est ce que prône Vandana Shiva. Donc effectivement, dans un contexte français, c'est un petit peu plus difficile que dans un contexte indien où ils ont en fait encore beaucoup plus en lien avec à la fois l'environnement et avec tout ce qui peut être artisanat et tout ce qui est fait maison. Mais ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Et, moi, il faut pas être trop visionnaire pour se dire que aujourd'hui tout ce qui est habillement c'est délocalisé dans des produits qui sont dans des pays qui sont généralement très très loin de chez nous.
Par exemple les tomates.
Alors moi je parle vraiment de l'habillement parce que les tomates ça c'est déjà très relocalisé. Finalement, moi je vois sur les marchés on trouve déjà beaucoup plus de produits locaux qu'il y a quelques années. C'est en train de revenir. Il y a toute une jeunesse qui essaie de se réinstaller en agriculture tout simplement pour d'une part parce que ça fait du sens dans leur vie et puis pour pas laisser ça en pâture aussi aux industriels qui eux vous voyez une tomate. J'écoutais l'autre jour Philippe Desbrosses qui disait qu'il y avait 4 fois moins de vitamines dans un chou-fleur qu'il y a 40 ans. Voilà, c'est tout aussi une logique. Si on mange moins de vitamines, tout simplement on en a moins dans notre corps et on est moins capable de faire face aussi à un quotidien et à tout ce qu'on essaie de faire dans une vie équilibrée.
Qu'est-ce que vous voulez dire alors sur l'habillement que c'est fait par les Chinois?
Oui. L'habillement, je me dis, voilà, aujourd'hui, alors que la France était couverte de champs de chanvre, il y a encore 150 ou 200 ans, pour faire justement de l'habillement fait maison, aujourd'hui tout a été délocalisé dans des produits très lointains. Mais on voit en fait que le coût, en fait, à la fois le coût des matières premières, le coût du travail et le coût du transport est en train d'augmenter. Donc il ne faut pas être très visionnaire pour se dire que finalement l'habillement, peut-être à échéance de 20 ou 30 ans, va se relocaliser aussi localement. Voilà. Donc on a des champs, en fait, des perspectives. Aujourd'hui, si quelqu'un qui voudrait relocaliser des filières textiles et l'habillement, aujourd'hui c'est difficile, mais petit à petit, des gens qui vont le faire vont être aussi les pionniers. Et je pense que la conscience aussi qu'il faut essayer de penser local va nous amener assez rapidement à essayer de relocaliser tous les pans entiers de l'économie de façon assez naturelle. Tout simplement parce que si j'achète un t-shirt qui est produit par mon voisin, ça permet de faire vivre mon voisin et c'est mon voisin derrière qui va venir m'acheter mes tomates ou acheter une coupe de cheveux ou acheter quoi que ce soit. Et donc en fait on recrée des économies locales très fortes. On est moins dépendant finalement de cette économie mondialisée qui certes a ses avantages mais qui au final crée beaucoup d'injustice, beaucoup d'inégalités, et qui en fait, si aujourd'hui on peut consommer tous ces tas de produits qui sont très peu chers, c'est aussi parce qu'on pille tout un tas de ressources et qu'on exploite la faculté, la force de travail de tous ces pays où les gens n'ont pas de droits, n'ont pas de retraite, ni de sécurité sociale. Donc c'est aussi une sorte de responsabilité de dire, nous en France, on prend tous les acquis sociaux, mais finalement, on va exploiter tous les gens des autres pays pour finalement qu'ils travaillent la terre, qu'ils travaillent tout un tas de produits manufacturés sur lesquels eux ne bénéficient en rien de tous les biens fait qu'on a pu, en fait, tous les acquis sociaux qu'on a pu construire en France. Donc, en fait, il y a toute une vision, en fait, qui est derrière ça, derrière cette idée de la relocalisation. C'est pas juste les tomates, mais c'est voir comment, petit à petit, l'économie peut devenir un tissu social très, très vivant à l'échelle locale. Et il y a des territoires un petit peu qui l'expérimentent. Ici, on est en Drôme, dans la Biovallée. Donc, il y a des choses aussi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de gens qui se réinstallent ici pour produire, en fait, des choses avec leurs mains.
C'est vraiment local, oui.
C'est quelque chose qui est très positif et de toute façon qui est au stade expérimental, mais ça, on voit que ça se développe et que les gens, quelque part, ont envie de ça. Et c'est aussi de se dire, j'achète une paire de chaussures, ok, je vais la payer 150 euros, c'est cher. Je vais la payer 200 euros, c'est très cher. Mais quelque part, si je la garde 20 ans et que le cordonnier qui peut la réparer, il est en bas de chez moi, est-ce que quelque part, c'est pas moins cher que d'acheter dans le même pas de temps 4 ou 5 paires de chaussures?
On est bien d'accord. Sauf que les gens, ils aiment le changement aussi.
Alors,
c'est un paradoxe.
Le changement. Et donc là, c'est là, est-ce qu'il faut aussi questionner cette idée de mode qui a été, insufflée. Alors, je dis pas qu'il faut garder les mêmes vêtements toute sa vie. C'est un peu une pensée un petit peu extrême où les gens me rejoindraient sans doute pas. Mais quelque part, à l'inverse, est-ce qu'il faut changer de vêtements tous les ans? C'est une vraie question. Et à quoi ça nous sert de changer de vêtements tous les ans? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux changer de vêtements un peu moins souvent, avoir des vêtements un peu plus robustes et des vêtements dont on connaît les gens qui les ont fabriqués et qu'on, donc, et voilà, tout simplement.
Et par contre, Nathanaël, à la création du film En quête de sens, vous étiez déjà dans cette transition, alors que Marc n'était pas du tout dans cette transition. Il était plutôt même de l'autre côté de la barrière.
Ouais, ça c'est le côté un peu amusant, hein. C'est finalement que toute cette aventure...
Mais il vous a rejoint dans l'aventure.
C'est un peu l'histoire de la déconstruction de Marc, qui finalement avait l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et qui petit à petit, en rencontrant toutes ces personnes très très lumineuses, a fait justement ce cheminement, et a commencé à justement comprendre petit à petit, à remettre en question son système de croyances, à remettre en question tout ce qu'on lui avait appris en école de commerce, et à se dire, il y a peut-être d'autres logiques, il y a peut-être la logique de la vie, qui est peut-être différente de la logique en fait du commerce et de la compétition, et donc tout ce changement qui se fait aussi dans la douleur. Quand on change de croyance et de conviction, ça passe par des phases difficiles qu'on montre dans le film. C'est tout un cheminement. À un moment donné, on perd ses amis, etc. Mm-hmm. etc. Ça ne veut pas dire qu'on les retrouve pas à un moment donné, mais voilà, il y a tout un cheminement un petit peu délicat. Les gens comprennent plus très bien où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites. Et puis finalement, le temps de se réaffirmer dans une nouvelle démarche, dans une nouvelle cohérence, avec un équilibre aussi personnel là-dedans, ça prend quelques années. Mais aujourd'hui il y a des gens qui sont très tiraillés dans leur travail, comme c'était le cas de Marc quand je l'ai rencontré, quand je l'ai retrouvé à New York, hein, puisqu'on était amis d'enfance, on s'était perdu de vue depuis 10 ans, jusqu'à ce que je décide de retourner le voir en fait à New York un peu comme ça par hasard. Et finalement ça a été le déclencheur de toute cette aventure où il s'est lui en fait métamorphosé au contact de toutes ces personnes tellement lumineuses, tellement encadrées, tellement incarnées et tellement cohérentes au final, que finalement ça vous pousse à remettre en question vos croyances, vos dogmes et votre réalité, et ça vous pousse à devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de différent, et de vous engager sur un chemin, voilà. Donc parce qu'on a fait de la place, parce qu'on s'est mis en chemin dans notre vie, on a laissé aussi libre cours, on a eu la chance aussi d'avoir ce temps-là et de choisir de le prendre, et ça a permis du coup de faire toute cette métamorphose que j'ai vécue aussi, même si j'étais déjà sur ce chemin auparavant. C'est vrai que de rencontrer toutes ces personnes incroyables, ça vous redonne encore une force de conviction, une ouverture, etc. Et ça vous redonne la force, en fait, d'aller au-devant de toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer sur ce chemin-là, toutes les incohérences qu'on trouve en cours de route, y compris nos propres incohérences. Mmh. Parce que, on est encore dépendant de tout un tas de logiques qui sont ce qu'on appelle celles de l'ancien monde, c'est-à-dire toutes ces logiques de compétition, ces logiques de destruction, dont il faut qu'on arrive à sortir, mais dont on est encore au quotidien confronté à ça. Voilà. Et après, c'est arriver à voir la beauté qu'il y a en chacun, le potentiel qu'il y a en chacun, d'être vraiment, de laisser libre cours à des pulsions plutôt positives, plutôt que de naître dans le marasme, dans la violence intérieure, dans la violence qu'on fait aux autres, etc. Et donc ça aussi, c'est entre guillemets l'étincelle spirituelle, se reposer des questions par rapport au sens de cette existence. Et ça aussi, les gens qu'on a rencontrés sur la route nous ont éveillés aussi à cette réflexion-là, et ce dont on témoigne dans le film, et qui vient enrichir, qui vient donner en fait une perspective et un supplément d'âme en fait à toute cette démarche, qui n'est pas purement en fait écologiste ou purement altermondialiste, mais qui est en fait incarnée dans le vivant, dans ce qu'il a de plus simple et de plus beau, qui ne peut pas des fois s'exprimer avec des mots. Voilà, toute la beauté qu'il y a à être ici sur Terre en 2015 et à assister à tout ça.
Et à ce jour, vous êtes plutôt positif ou négatif dans l'avenir, pour l'avenir ?
Je dirais que c'est un subtil mélange des deux, et ça dépend un peu de tout un chacun, l'énergie qu'on veut mettre dans le fait d'essayer de sauver nos fesses, hein, en tant qu'humain sur la planète, hein, puisque finalement l'espèce humaine n'est pas vouée forcément à rester en vie sur la planète indéfiniment, et là on est plutôt en train de prendre la voie d'une autodestruction généralisée, ou peut-être d'une petite faction d'humains qui arriverait à finalement, au détriment de tous les autres, arriver à se sauver de là. Moi je suis plutôt positif, sinon j'aurais pas fait tout ce film, et on serait pas là en train de dire que c'est possible et qu'il faut se relier pour y arriver. Je pense que de toute façon, si on baisse les bras maintenant, c'est foutu, donc quitte à faire, si on n'a rien à perdre, autant y aller franchement et dire ce qu'il y a à dire, en toute simplicité. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Nous ne prétendons pas du tout avoir mis le droit sur des grandes solutions. On n'a pas vraiment de solution, en fait. On a plutôt des questions et l'envie de remettre en question toute cette vision dans laquelle on est enfermé et qu'on ne prend pas des fois pas le temps de remettre en question. Et donc, nous, comme on a eu la chance de rencontrer tous ces gens-là, on est finalement porteurs maintenant de messages qu'ils nous ont confiés, et tout simplement de dire, reposons-nous des questions, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment, est-ce qu'on ne peut pas se relier au service de quelque chose de plus grand, de plus juste, et dans ce sens-là, je suis optimiste, parce que nous, on a croisé des tas de gens qui sont sur ce chemin-là, on en croise tous les jours, avec tous les témoignages qu'on a autour du film, on voit bien qu'il y a quand même une forte proportion quand même de la population qui est déjà en train de se reposer toutes ces questions et en train de s'emparer de tous ces leviers d'action qui sont à notre disponibilité. Je parle d'associations comme les Colibris ou Alternativa, qui a fait un carton cet été, qui fait ses journées nationales le 27 et le 28 septembre. Donc vous voyez tout un tas de choses là, qui sont en train de se manifester concrètement et qui permet aux gens de se relier. Donc dans ce sens-là, il y a vraiment matière à être positif, mais maintenant il faut amplifier le mouvement. Il faut en parler à ses voisins, il faut leur dire, vous savez, le changement, c'est pas juste un truc où on se flagelle et où on mange des racines. C'est un truc qui est sympa, c'est un truc qui se fait avec les gens, c'est un truc qui se fait dans la bonne humeur, ça donne de la joie, ça donne tout un tas de choses positives dans notre vie. Donc voilà, il faut juste y aller, arrêter d'avoir peur et espérer que ça puisse se massifier et qu'on puisse arriver vraiment à changer des logiques plus globales partant de cet élan local.
À la sortie de votre film En quête de sens, le spectateur repart avec des réponses ou plutôt des questions ?
Alors, de ce qu'on nous en dit, parce que finalement, c'est pas trop à nous d'en parler, mais en tout cas de ce que les gens nous ont dit.
Oui, mais vous avez déjà eu des retours.
Avec des envies, avec des élans, en reprenant confiance dans leur capacité à changer des choses. C'est plutôt une bouffée d'air,
une bouffée d'espoir.
Et c'est une envie de se reposer des questions et de passer à l'action. Voilà.
C'est plutôt positif, donc. Réponses.
Ah ouais, c'est un film positif qu'on a voulu positif et qu'on a mis du négatif dedans, mais on l'a mis au service du positif. On a eu marre aussi de voir des films qui finalement dressent un constat d'un monde qui est en train de dépérir et de finalement s'atomiser. Donc ça, nous, on part de ce constat-là, pour finalement aller vers des solutions, aller vers du concret et donner envie aux gens de se raccrocher à des pulsions de vie, voilà, et du concret dans leur vie et des choses saines.
Nathanaël Coste, merci de toutes ces informations. À très bientôt sur Neptune FM.
Eh ben merci, très bonne projection donc à l'Île-Dieu. On attend vos retours sur l'adresse contact@enquête-de-sens-le-film.com. Et puis tous ceux qui veulent organiser des projections dans un cadre ou dans un autre, sachez que le DVD sera disponible mi-novembre et qu'avec ce DVD, tout le monde pourra organiser des projections à droite, à gauche, et puis dans des cinémas ou en dehors. Voilà.
En quête de sens, c'est à découvrir au cinéma LA le mardi 15 septembre prochain dès 20h30. Merci Nathanaël Coste, à très bientôt.
Merci, bonne projection, merci à vous.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas, et comme chaque lundi, c'est spécial musique avec en interview Pascal Picard. À lundi, bon week-end, bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.